différents. Et par conséquent, je crois qu'il importe de rechercher plutôt la complémentarité que l'antagonisme dans cette affaire. Le deuxième préliminaire que je voudrais dire simplement, c'est vous savez bien que le contrôle général ne s'intéresse guère au droit en lui-même. Nous sommes un pays, je le dis, pardon, chaque année devant vous, qui raffole de la règle de droit, d'un droit indéfiniment répété, à satiété même. Ce qui nous importe, nous, au contrôle général, vous l'avez constaté lorsque nous venons vous voir, avec beaucoup d'intérêt, c'est l'effectivité des droits. Autrement dit, il ne s'agit pas de savoir si une personne a droit, mais si le jour venu, elle peut effectivement exercer ce droit. Alors, je voudrais simplement, dans le temps qui reste, dire deux choses. Premièrement, faire écho à ce que j'ai appelé de quelques principes de droit sans importance, me coulant dans le titre à peu près éponyme d'un film américain des années 70 qui s'appelait, vous en souvenez, Petits meurtres sans importance. J'adore ce titre, donc il fallait bien que je le ressorte quelque part. Et j'ai donc collé des principes juridiques. J'en ai trouvé cinq qui me paraissent importants à rappeler, même si certains d'entre vous, et même si tous, au fond, vous sont familiers. Et puis après, on va passer à certaines modalités pratiques. Il y en aura également 5, ça fera 10 commandements. Donc, vous voyez ma modestie, en l'occurrence. Le premier principe, c'est le droit à la vie, naturellement. D'où découle assez facilement le droit à la santé. C'est du moins l'approche, ça, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais il y a une autre approche qui est celle de notre Constitution. Le principe, le préambule de 46, ça a été rappelé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, dit que la nation, à peu près, je cite de mémoire, garantit à tous la protection de sa santé. Par conséquent, il en découle un certain nombre d'obligations pour l'État d'assurer à chacun l'effectivité de ce droit. Ça vaut, ça, sous l'angle Convention européenne des droits de l'homme, notamment pour les personnes qui sont retenues par l'État, prisonnières, etc., etc. Ça peut être le cas de personnes dont on a décidé l'hospitalisation complète d'office, par exemple. Mais du côté de l'approche constitutionnelle, ça vaut pour l'obligation de mettre en œuvre des moyens qui permettent de satisfaire ce droit à la protection de la santé. Je n'insiste pas sur ce point, il est connu de tous. Le deuxième principe, c'est le droit à la liberté d'aller et de venir, qui a, en l'occurrence, dans ce qui nous intéresse, deux corollaires. D'une part, qu'il ne peut y avoir de détention arbitraire, c'est-à-dire de détention qui soit, ou de détention au sens large, qui soit ordonnée sans qu'il y ait une nécessité de le faire, ou bien selon une procédure qui n'est pas prévue. Et puis le deuxième corollaire, c'est qu'il ne peut y avoir de privation de liberté que s'il y a donc nécessité de cette privation de liberté. Autour de ce thème de la nécessité, je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'interroger, sur lesquelles je voudrais être sûr que les lois qui nous gouvernent ont prévu bien les choses. Je crois que pour moi, la nécessité ne peut être appréciée, par exemple, que, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, sous forme d'une objectivation de cette nécessité, c'est-à-dire en particulier que l'appréciation qui est faite par un médecin d'état de santé du malade, qui doit ou non, selon sa décision, être hospitalisé à titre complet, ne peut se faire que si ce médecin lui-même présente des garanties de neutralité, d'impartialité absolue. Et pensant à certaines affaires d'hospitalisation à la demande d'un tiers, je ne suis pas sûr que cette condition-là soit remplie toujours. On ne peut pas supporter le moindre conflit d'intérêts dans ces affaires délicates. Et je crois que s'il y en avait un, évidemment, la nécessité de cette hospitalisation ne pourrait pas être démontrée. Et puis il faut deuxièmement que cette mesure nécessaire soit aussi proportionnelle au risque que ferait courir à l'égard de lui-même ou à l'égard d'autrui le malade dont on décide qu'il faut l'hospitaliser complètement. À cet égard, je voudrais dire que ça implique que d'autres solutions alternatives doivent être recherchées. C'est l'avis, en tout cas, de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt de 2010 contre la Roumanie. Je crois aussi que je ne cesse pas d'être impressionné par les données quantitatives sur ce qu'on appelait autrefois, pardon de ce langage encore un peu démodé désormais, l'hospitalisation d'office ou l'hospitalisation en demande d'un tiers. Je faisais encore des petits calculs avant de venir depuis 5 ans, c'est-à-dire entre 2006 et 2010. Le nombre d'hospitalisations à la demande d'un tiers, ça c'est valable en effet pour l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, a augmenté de 30%. Même pourcentage pour les hospitalisations d'office. Le nombre de journées d'hospitalisation à la demande d'un tiers, entre les deux dates que je viens d'évoquer, 2006-2010, a augmenté de 64%. Et le nombre de journées d'hospitalisation d'office a augmenté dans le même laps de temps de 56%. Alors, naturellement, je ne prétends pas expliquer ces pourcentages, parce qu'en réalité, c'est une donnée très difficile à expliquer. Ça peut, ça, tenir pour beaucoup au fonctionnement du système de soins lui-même. Mais en tout cas, il est clair que même s'il y a des données qui tiennent aux maladies mentales dans ces chiffres, il ne peut pas y avoir 30% d'augmentation de malades mentaux dans les 5 années 2006-2010. Ça, c'est pas possible. Et par conséquent, la question de la proportionnalité est posée par ces chiffres-là. Le troisième principe que je veux évoquer, c'est le principe du droit de se défendre. Le principe, notamment, qui est reconnu aux malades, même aux malades qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour, ce principe ne se partage pas. Et il doit trouver à s'exercer au moins à deux moments clés. Le premier, c'est lorsque le malade entre à l'hôpital à la suite de la mesure qui a été ordonnée à son encontre. Et je crois qu'à cet égard, nous avons dit, nous avons écrit bien souvent, je me permets de le redire devant vous, qu'il faut faire très attention à la manière dont on dispense aux malades l'information sur ses droits. Je dis bien la manière, à la fois dans les livrets d'accueil que vous rédigez, dans la manière dont le personnel soignant procède ou non à l'information de ses droits. Souvent, c'est différé dans des délais que plus personne ne maîtrise en réalité. Par conséquent, il faut y être extrêmement attentif. Il faut aussi que les conditions matérielles du recours soient remplies. À quoi ça sert de dire qu'il y a un droit au recours si on n'a pas de papier, de crayon pour écrire, etc., etc. À quoi sert de dire qu'il y a un tribunal si personne n'en connaît l'adresse, et ainsi de suite. Et puis, un deuxième moment où c'est très clairement le droit de se défendre qui est en cause, c'est évidemment la comparution désormais devant le JLD. Je me passerai bien du dé, mais on l'avait dit, je crois, ensemble l'année dernière. Ça peut être un autre juge. D'ailleurs, je crois que vous avez évoqué le juge des tutelles, mais moi, j'y vois pas d'inconvénient. En tout cas, il faut que les conditions de cette défense soient convenablement assurées. Autrement dit, il ne faut pas que la personne soit traumatisée. Supposez que vous mettiez un accusé dans une cour d'assises avec à ses pieds un chien méchant qui lui sauterait à la gorge dès qu'il ouvrait à la bouche. Ben, supposez maintenant qu'on met un parano dans une salle de visioconférence ou qu'on traîne je ne sais quel malade au milieu du public, du tribunal de grande instance, etc. Ben, c'est la même chose. Nous avions dit ensemble, il y a un an, je m'en souviens parfaitement, qu'il fallait que les audiences aient lieu à l'hôpital. Il y a encore une petite majorité d'audiences qui n'ont pas lieu à l'hôpital. Il y a encore beaucoup de développement de visioconférence. Nous avons rendu des avis publics sur ces points-là. Il faut cesser ces petits jeux. Et je crois encore une fois que l'invocation par les magistrats de la nécessaire neutralité qui doit exister et pour lesquels seraient faits les palais de justice ne tient pas en l'espèce, puisque il s'agit pas d'un litige entre deux parties dont on doit assurer dans un lieu neutre le possible règlement. Il s'agit pas d'un litige, il s'agit d'une situation objective à apprécier et encore une fois en laissant le malade en état de ne pas déraper complètement lorsqu'on l'emmène dans une voiture entre dans un essaim de robe noire qui vont le paniquer. Donc je n'insiste pas, vous êtes parfaitement conscient de ces problèmes-là, je souscris absolument à votre jugement. Le quatrième principe, je ne veux pas être trop long, pardon, c'est le principe d'égalité. C'est là-dessus que le Conseil constitutionnel a pointé la QPC du 20 avril 2012. S'agissant des personnes pour lesquelles il y avait eu un jugement préalable d'irresponsabilité pénale, etc., etc., et s'agissant des personnes qui avaient été placées en UMD. Moi, j'étais, je dois dire, plus sensible qu'il ne l'a été Je l'avais fait savoir aux commissions parlementaires qui avaient préparé la loi du 5 juillet 2011, à l'aspect inégalitaire, et je pensais qu'il y avait là trop de précautions prises à l'égard d'un certain nombre de personnes. Ce n'est pas le point qui a fait pencher le Conseil constitutionnel, mais il y a là une virtualité qui est riche de, j'allais dire, de préoccupations pour nous tous, pour vous comme pour moi, parce que le Conseil constitutionnel a jugé assez insuffisantes les motivations, en tout cas les motivations de la loi qui impliquaient le placement, pas de la loi, du règlement, qui impliquait le placement en UMD. Donc il va falloir refaire la motivation du placement en UMD. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais il va falloir trouver les termes qui conviennent. C'est pas forcément simple. Et deuxièmement, je ne voudrais pas qu'on montre du doigt trop longtemps, y compris dans la loi, les personnes qui ont été en UMD. Personnellement, je suis un peu troublé sur le plan du principe d'égalité. Le dernier principe, c'est le respect du secret et de la confidentialité des soins. Principe qui est mis à mal dans certaines audiences publiques devant le JLD, je n'y reviens pas. Et principe qui peut être mis à mal aussi quelquefois dans le fonctionnement de certaines choses que nous avons eues en établissement. Voilà. Alors, je passe beaucoup plus rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser le propos, sur mon deuxième aspect que j'ai appelé de quelques petites modalités pratiques. Il s'agit de surtout de s'interroger sur certaines modalités de la loi du 5 juillet 2011. Et sur ce point, peut-être que dans l'appréciation de l'imperfection que vous avez faite, je vous rejoins en partie. Alors, la première question, il y en a cinq donc aussi. Première question, c'est est-ce qu'il faut refaire une loi sur l'hospitalisation sans consentement? Est-ce qu'il faut faire une loi générale sur la psychiatrie? Je trouve que c'est aux professionnels de répondre, c'est sûrement pas à moi. Ce que je voudrais bien, c'est que si on choisit la deuxième option, il faut que les professionnels soient prêts à répondre à ce que devrait contenir une loi générale sur la psychiatrie. Et moi, je n'ajouterais qu'un souhait sur si cette loi devait être un jour votée, c'est qu'on assure bien les liens entre la psychiatrie et la pré-psychiatrie, et notamment le médico-social. Je trouve que pour l'instant, il y a trop de problèmes à la sortie. Il y a des gens qui se trouvent en hôpital qui ne devraient plus y être parce qu'on a du mal à trouver des solutions. Et par conséquent, toute loi sur la psychiatrie devrait aussi jeter un pont avec l'extérieur. Vous savez, dans les institutions de privation de liberté, moi, ce qui m'intéresse, c'est moins les institutions en elles-mêmes, encore que si elles sont intéressantes, mais c'est aussi les ponts qu'elles savent jeter avec ceux qui les environnent. Première interrogation. La deuxième interrogation, c'est... Bon, mais ça, le Conseil constitutionnel y a répondu. Je n'ai jamais rien compris, et je l'avais dit aux parlementaires, je n'ai jamais rien compris à ces histoires de soins ambulatoires sous contrainte. On disait soins ambulatoires, y compris à domicile. Est-ce que ça voulait dire que des personnels soignants s'introduisaient de force dans un domicile pour faire, pour la délivrance d'un médicament ou pour piquer je ne sais quoi? Bon, non, tout ça est absurde. Le Conseil constitutionnel a bien dit qu'il ne pouvait y avoir en l'occurrence aucune contrainte, mais cette espèce de faux semblant sur lequel reposait la loi d'une certaine manière est déchirée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? La troisième interrogation, c'est sur le maintien de la distinction entre SPDT et SPDRE. Bien sûr que c'est une distinction cardinale. Je sais bien qu'il y a 150 ans derrière elle, que dis-je, bientôt 200 ans. Je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours fondée. Dans l'esprit un peu de, c'est vrai, de méfiance que j'ai à l'égard de certains HDT, je serais assez content qu'on rapproche ces deux hypothèses. Si on se repose du moins sur la personne du malade, c'est-à-dire sur son incapacité à rester de façon non dangereuse, si je puis dire, dans la vie ordinaire. Dans le même aspect, il y a la question de savoir lancinante, mais il faudra peut-être se la reposer à l'occasion de la révision de la loi du 5 juillet, s'il ne faut pas juridictionnaliser le tout et non pas laisser le préfet encore statuer sur les HO. Personnellement, moi, j'y serais assez favorable, mais je reconnais que c'est un déménagement un peu important. Quatrième modalité pratique, on a tendance à multiplier les avis sans examen clinique aujourd'hui, le médecin. Moi, je vous que je suis très réticent. Je suis très réticent. Je sais bien qu'il n'y a plus beaucoup de psychiatres et qu'il y en aura de moins en moins encore jusqu'en 2018, si j'ai bien compris, en tout cas, l'analyse qu'on en a faite dans le dernier rapport annuel. Je trouve que ce sont des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. Et enfin, le dernier point, j'en terminerai là, je trouve qu'on a multiplié à l'envi les avis médicaux, les avis de collège, etc. etc. Bon, moi, je veux bien que quand dans un procès d'assises, vous avez en jeu derrière une condamnation à 20 ou 30 ans d'emprisonnement ou de réclusion, je veux bien qu'on recoure à deux experts. Quand il s'agit de laisser sortir quelqu'un, on instaure avec ces multiples expertises, en réalité, un double soupçon à l'égard du malade qu'on ne croit pas vraiment guéri, et on se dit non, il ne faut pas laisser sortir, confère l'attitude de certains préfets que nous avions dénoncé dans un avis sur certaines modalités de l'hospitalisation d'office. Et deuxièmement, c'est une méfiance aussi à l'égard du médecin, qu'on juge incapable d'apprécier l'état de santé du malade. Et on aura beau me répéter que la psychiatrie n'est pas une science exacte, mais il n'y a pas beaucoup de sciences exactes, hein, si on y réfléchit bien, ça ne m'impressionne pas du tout. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je ne vois pas pourquoi le certificat d'un seul médecin, s'agissant de la remise dehors de quelqu'un dont l'état normal est d'y être, doit engendrer le même surcroît de précaution que la question de savoir si on doit mettre quelqu'un dedans. Donc je suis absolument, résolument pour dégonfler toute cette bureaucratie qu'on a mis en place. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que je sais que tout ça a été extrêmement contraignant pour nous. Je dis ça parce qu'il y a là, encore une fois, une appréciation de la personne qui m'inquiète beaucoup, à moi qui me préoccupe de privation de liberté, parce que subrepticement, au fond, sans qu'on s'en rende compte, toutes ces lois, les unes après les autres, rendre la privation de liberté quelque chose comme un état beaucoup plus naturel qu'il ne devrait être. Merci beaucoup.